Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus.
Nous avons la parole de Dieu
ici, Jabodima,
qui renverse des raisonnements, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Ce soir, je vais partager un sujet sur la guérison divine.
Et je vais vous montrer
un certain nombre de principes sur la guérison divine, principes qui sont importants. Parce que nous sommes dans un royaume qui est le royaume de Dieu. Et il est très important de marcher selon les lois de ce royaume. Parce que Dieu est un Dieu de guérison. Comme nous allons voir, il y a des façons de recevoir la guérison. Et nous avons bien sûr des témoignages de cette guérison divine. Certains que vous entendez et beaucoup que vous n'entendez pas. Et je veux vous exhorter ce soir. Parce que je ressens que c'est le sujet. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a mis ce sujet dans mon cœur, mais c'est comme ça. Je pensais au départ faire autre chose. Et quand j'ai prié cet après-midi, c'était clair que c'était ce sujet que je devais partager avec vous. La première chose qu'il faut savoir, c'est que lorsque Dieu a créé Adam et
Ève,
il les a créés absolument parfaits. Dans le jardin d'Éden, esprit, âme et corps, ce que Dieu avait créé en tant qu'Adam et Ève, eh bien, ils étaient parfaits. Ils étaient parfaits spirituellement. Ils étaient parfaits au niveau de leur âme. Et ils étaient parfaits aussi au niveau de leur corps. La maladie a pu s'introduire dans l'être humain et dans la race humaine comme conséquence du péché. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, alors la Bible dit qu'en fait ils sont morts spirituellement. Mais Dieu les avait prévenus et leur avait dit, si vous mangez de ce fruit, vous allez mourir. Mais littéralement dans l'hébreu, c'est en mourant vous allez mourir, en mourant tu mourras. Et en fait, ceci veut simplement dire que lorsqu'Adam et Ève ont péché, eh bien, la mort spirituelle est entrée en eux dans leur esprit, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. Et à ce moment-là, bien sûr, s'ils mouraient physiquement,
eh
bien, ils descendaient dans le séjour des morts et ils n'allaient pas au ciel. C'était très clair. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la mort spirituelle a amené la mort dans leur corps, le processus mortel dans leur corps. Nous savons maintenant, c'est très clair parmi les scientifiques, que le processus de vieillesse, c'est quelque chose qui est finalement assez simple, mais que les scientifiques ne savent pas contrecarrer. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a environ jusqu'à l'âge de 27 ans chez un être humain, plus de cellules qui naissent que de cellules qui meurent. Et à partir de 27 ans environ, c'est ce que les scientifiques nous disent, et bien il y a plus de cellules qui meurent dans notre corps que de cellules qui naissent ou qui se renouvellent. Ce qui fait que nous sommes sujets au processus de vieillissement, ce qui n'était bien sûr pas le cas avec Adam et Ève. Adam et Ève n'étaient pas
sujet à la maladie.
Ntabwo bari gushobora gutegwa n'ingwara bobo.
Rien ne pouvait les atteindre.
Nta na kimwe cyari gushobora kubashikira nk'ingwara.
Ils étaient absolument parfaits.
Bobo bari batunganye ijana ku ijana.
L'homme ayant chuté,
umuntu amaze gukora icyaha rero,
la maladie a pu entrer dans ce monde en même temps que le péché.
Ingwara niho ashobora kwinjira mu muntu.
Parce que le péché a amené la malédiction. Et il est clair qu'à partir de ce moment-là, le corps de l'homme, devenant mortel, a été sujet à la maladie. Alors la maladie, qu'est-ce que c'est? C'est un déséquilibre biologique. Quelque chose qui va contraire
à l'homme
contre de ce que Dieu a prévu, avait prévu pour l'homme au départ. Donc lorsque nous tombons malades, ça veut dire qu'il y a un corps étranger, soit qui s'est introduit, soit des différentes influences qui créent un déséquilibre biologique dans notre corps, en général dans une partie de notre corps, qui fait qu'un membre ou une partie ou quasiment tout notre corps se retrouve déséquilibré biologiquement parlant. Et la guérison, c'est ramener cet équilibre. Alors la maladie peut avoir plusieurs sources, c'est clair. La Bible nous montre que bon, ça peut venir du péché directement.
C'est-à-dire
des gens effectivement qui font du péché et qui tombent malades à cause de leur péché. Ça peut venir de manque d'hygiène, ça peut venir de choses, je dirais, naturelles, de contact avec d'autres personnes malades. Nous connaissons certaines maladies qui sont contagieuses. Et aussi, ça peut venir d'esprits démoniaques. La Bible est claire là-dessus. Il peut y avoir une oppression démoniaque dans un corps qui fait que cette personne est oppressée par un démon de maladie. Et cela crée justement ce déséquilibre. Alors, évidemment, dans chaque cause, il y a bien sûr une cure, il y a une solution au travers de Dieu. Mais quand on voit la Bible et au travers de cela, comment Dieu a dit certaines choses dans l'humanité, il est clair que, par exemple, dans la loi de Moïse, dans Deutéronome 28, Dieu leur avait donné des conséquences de la désobéissance et il leur avait donc expliqué un certain nombre de choses, enfin donné un certain nombre de lois spirituelles qui leur montraient clairement qu'une partie donc de cette malédiction,
eh
bien c'était la maladie. Par exemple, quand vous lisez Deutéronome 28, la Bible donc nous parle donc à partir des versets disons 21. Et là, l'hébreu utilise ce qu'on appelle un temps permissif. Parce que ce n'est pas Dieu qui est l'auteur de la maladie. Par contre, il y a des lois spirituelles qui amènent la maladie. Et des fois, chez certains chrétiens, il disait à son peuple d'Israël, l'Éternel attache ou on pourrait mieux traduire permettra que s'attache à toi la peste jusqu'à ce qu'elle t'extermine du pays dans lequel tu vas entrer pour en prendre possession. L'Éternel te frappera de dépérissement, de fièvre, d'inflammation, de brûlure, de sécheresse, de rouille, de niel qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses,
etc.
Alors, c'est clair que quand nous étudions la malédiction, ce qu'on appelle la loi de Moïse, elle avait trois volets. C'était la mort spirituelle, c'était la maladie, et c'était la pauvreté. Alors vous les allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il nous parle de la loi de Moïse? Nous, nous sommes sur la Nouvelle Alliance.
Bah
oui, parce que la Bible va nous en parler dans Galates. Ce que je vais vous montrer ce soir, c'est que au travers de notre alliance en Jésus-Christ, eh bien, la guérison s'y trouve. La guérison fait partie de notre alliance. La guérison est une part de notre alliance, est attachée à notre alliance. Je vous rappelle qu'en Jésus-Christ, nous avons une alliance. Au moment même où nous avons donné notre vie à Christ, cette alliance a pris effet. Une alliance, c'est un contrat entre deux ou plusieurs parties. Là en l'occurrence deux parties qui donnent des privilèges mais aussi qui a des obligations. Dieu nous donne des privilèges mais il nous demande un certain nombre de choses, l'obéissance par rapport à ce qu'il veut, par rapport à sa parole, par rapport aux lois spirituelles. C'est ce qui nous permet de recevoir les bénéfices de notre alliance. Donc la guérison fait partie de notre alliance. Ça fait partie du contrat que Dieu a fait avec nous en Jésus-Christ. Il faut que vous ayez une grande compréhension spirituelle de l'alliance. Parce que c'est quelque chose qui est fondamental. Lorsqu'un chrétien ne comprend pas bien cet aspect de l'alliance, il ne comprend pas que Dieu est lié à sa parole. Et ça, c'est absolument fondamental dans notre vie spirituelle. Lorsqu'on réalise que Dieu est lié par sa parole, cela nous permet d'attacher notre foi à ce que Dieu a dit. Ça, c'est absolument fondamental. Parce qu'une alliance, c'est ce qui lie Dieu à sa parole. Dieu est un Dieu qui ne ment point et il nous a liés avec sa parole. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu es né de nouveau, ce qu'il t'a promis dans cette parole, c'est une force obligatoire pour lui. C'est-à-dire qu'il est obligé d'honorer sa parole de son côté. C'est une obligation. Sa parole a force obligatoire dans ce cas-là. C'est-à-dire que si Dieu a dit, il ne peut pas se renier. Et maintenant, c'est à nous de prendre Dieu à sa parole. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental que vous devez comprendre dans votre vie spirituelle. Si vous comprenez que dans votre alliance, qui est une alliance individuelle, nous avons tous ici, aussi nombreux que nous sommes, une alliance individuelle personnelle entre le Seigneur et nous, individuelle. Quand tu es entré dans cette alliance, tu dois savoir que la guérison fait partie de cette alliance, fait partie de ce contrat dans lequel tu es lié avec Dieu, avec celui qui ne peut pas mentir. Vous voyez, parfois les hommes signent des contrats entre eux ou se promettent des choses ou font des serments entre eux.
et
parfois, eh bien, pour une raison ou pour une autre,
ces
contrats ne sont pas honorés. Par exemple, quelqu'un qui emprunte de l'argent à un établissement bancaire, et puis il n'arrive pas à honorer ses paiements.
Son contrat.
Ou une banque, comme nous l'avons déjà vu ici plusieurs fois, qui rentre en faillite, qui garde votre argent et qui est censé vous rendre votre argent et qui ne peut pas rendre votre argent. Ou un propriétaire qui signe un contrat avec vous, vous êtes le locataire et il
ne
tient pas ses promesses. L'avantage que nous avons, nous, c'est que le contrat qui est signé entre Dieu et toi, ce n'est pas entre un homme avec un homme. La signature est faite avec le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et tout ce qu'il y a dans ce contrat, du côté de Dieu, est absolument assermenté et ne peut pas changer. Il ne peut pas changer. Dieu a promis des choses dans ce contrat. Il est lié avec sa parole. Nous avons la nouvelle alliance dans le Nouveau Testament. Où Dieu est lié avec sa parole et il est obligé d'honorer sa parole. Mais toi, tu as un rôle, un rôle de comprendre comment, là on parle de la guérison divine, comprendre comment ces choses se passent,
hein.
Comment est-ce que cette clause du contrat qui parle de la guérison divine peut entrer en action dans ta propre vie,
hein.
Alors qu'est-ce que Dieu dit dans cette alliance, dans ce contrat qu'il a fait avec nous concernant la guérison divine? Nous avons bien des promesses dans la parole de Dieu à propos de la guérison divine. Mais juste avant, on va lire ce texte de Galates 3 au verset 13 et au verset 14. La Bible nous dit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il était écrit: maudit quiconque est pendu au bois, afin que pour les païens la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ, et que par la foi nous recevions la promesse de l'Esprit.
Umuvumo w'ivyagezwe yacitse kivume ku bwacu guko handitswe ngo azobavumwe umuntu wese amanitswe ku giti kugira ngo 14 umugisha wa Aburahamu ushike ku banyamahanga bawuheshejwe na Yesu Kristo kugira ngo kwizera kuturonkeshe mpwe mutwasezeraniwe.
Si vous étudiez la parole de Dieu, vous verrez que concernant la guérison divine, Dieu a fait des alliances. Mais bien évidemment, la Bible nous dit toujours que nous avons la meilleure alliance basée sur de meilleures promesses. Mais régulièrement dans la parole de Dieu, il y a un certain nombre de promesses, mais qui trouve un accomplissement total et absolu au travers du sacrifice de
Christ.
Par exemple, pour les Israélites, dans Exode chapitre 15, Dieu leur fait une promesse. Là encore, il faut qu'ils obéissent. Et Dieu va leur faire une promesse à propos de la guérison. Et on va voir que dans la suite, régulièrement, la parole de Dieu nous parle de ces promesses de guérison. Mais dans la loi de Moïse, la guérison divine était ce qu'on appelle sporadique, c'est-à-dire qu'elle tombait sur une personne ou sur une autre. Il fallait être souvent près d'un prophète si vous vouliez recevoir une guérison.
En tout cas, si vous lisez bien
l'Ancien Testament, c'est ce que vous verrez. Autant d'Élie et d'Élisée, ces deux prophètes,
hein,
qui sont souvent nommés par les théologiens de cette période, c'était l'âge d'or de la prophétie. Et en fait, on s'aperçoit que que Élie et Élisée vont vivre, enfin vont être les instruments de la guérison divine un certain nombre de fois. Si vous comparez l'Ancien et le Nouveau Testament, la loi de Moïse et le Nouveau Testament, vous apercevrez qu'il y a beaucoup plus de guérison dans le Nouveau Testament. La guérison est quelque chose qui se manifeste particulièrement dans les évangiles et depuis que Christ est ressuscité d'entre les morts. Pourquoi ? Parce qu'on va passer de certaines promesses, d'un certain contrat, à un contrat qui est bien meilleur en
Jésus-Christ.
Donc le peuple d'Israël avait le bénéfice de la guérison divine dans une certaine mesure. Et nous avons immensément plus au travers de
Christ.
D'abord, regardons quelques promesses qu'ils avaient. Il est dit au Exode 15, verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai, alors là aussi c'est un temps permissif, aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit.
Warababwira umurongo wa 26 ngo nimwagira umwete wo kumvira Uhoraho Imana yanyu mugakora ibitunganye mu nyonga ziwe mukumvira ibyagezwe byiwe mukitondera ivyo yihanikirije byose ngo ntandwara azobateza ngana no kumva yuko ntandwara zo kwemera ko zibatera nkizo yateye abanyagiputa ngo kuko ari Uhoraho abakiza indwara.
Et en fait, Dieu ici va se révéler par un nom.
Moyen de majamongaha, imana yishuye mwizina.
Qui est Yahvé Rapha, c'est-à-dire l'Éternel qui te guérit.
Yitwa Yehova Rapha, nukuvuga Uhoraho agukiza.
Et à plusieurs reprises, vous verrez dans l'Ancien Testament, si vous faites une étude de nom de Dieu dans l'Ancien Testament.
Kanugaragaje kwiga amazina y'Imana mwisezerano rya kera.
Dieu se révèle avec Yahvé et après par exemple, il y a Yahvé Shama, Yahvé Jireh, etc.
Urabona imana igenda yihishura itanga izina rimwe Yahvé chanke Jehova, hamigachikuri zirindi shama ya Rafa ya venibindi.
Il faut prier pour lui pour qu'il me traduise exactement, qu'il rajoute pas sa théologie qu'il apprend à l'Institut biblique Héritage.
Bébé.
Alors, il faut comprendre que à chaque fois qu'il vivait une expérience particulière, Dieu se révélait d'une certaine façon. Et en fait, la guérison, bon, on voit, c'est très sporadique dans toute la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. On a un certain nombre d'exemples, le roi Ézéchias qui est guéri. Bon, on voit différentes personnes qui sont guéries au cours de l'Ancien Testament. Mais ils n'avaient pas une promesse en tant que peuple. Rappelez-vous que le peuple d'Israël n'était pas né de nouveau. Donc, ils étaient au bénéfice seulement de certaines choses de Dieu quand ils s'approchaient d'un serviteur de Dieu, c'est-à-dire en général, c'était un prophète. C'était lui qui avait une onction particulière. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, vous avez une guérison par-ci, une guérison par-là, etc. Lorsque Jésus va venir, il va y avoir beaucoup plus de manifestations. D'ailleurs, dans le ministère de Christ, il y a énormément de manifestations de guérison. Si vous étudiez les évangiles, vous verrez qu'il y a 19 cas de guérison. Et à côté de ça, nous savons que des multitudes étaient guéries. Par ce qu'on appelle l'onction de guérison. On va en parler tout à l'heure. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au travers de Jésus, il va y avoir quelque chose qui nous est garanti au niveau de la guérison divine. Dans l'Ancien Testament, quelqu'un était malade.
Bon,
s'il n'y avait pas de prophète, s'il n'y avait personne, en général, la personne, si c'était grave, elle mourait. Bon, certains priaient, étaient proches d'un prophète,
hafi kumbere y'umuvugishwa
et recevaient leur guérison.
Bakakira ugukira kwa bagakiringwa.
Mais c'était pas quelque chose qui était acquis.
Ariko nabwo cari kintu bafise bafite
uburenganzira.
Aho nyene ni Imana yakora.
Sur une situation.
Ikabatabara mu
bihekanaka
cy'ingwara canke ahandi kakora.
Souverainement.
Ariko yabikora kenshi ivyishaki.
Et là je vais vous montrer que dans le Nouveau Testament.
Yakandabere ubu rero mu isezerano
rishasha. Ça fait vraiment partie du contrat.
Urabona byo kuri ko biri mu masezerano dufitane n'Imana.
Et nous verrons après qu'il y a trois façons.
Urabona ko ari uburyo butatu.
Par lesquels on peut recevoir la guérison.
Bice muri bwo munashobora kwakira ugukira kwiwe.
Je vous dis ça.
Ibi ndababwira.
Parce que je m'aperçois de plusieurs choses. Nous avons des guérisons régulièrement dans l'église. Il y a une dame qui était venue de l'intérieur du pays d'ailleurs un jour. Et je pense qu'elle va témoigner dans les prochaines semaines qui a été guérie d'asthme. Et qui était vraiment, quand elle est venue à l'église, elle était amenée par des personnes parce qu'elle avait du mal à marcher. Elle disait lui-même, elle-même, dans son témoignage, elle dit qu'elle était en train de mourir. Et elle est venue un dimanche, elle a été entièrement guérie de son asthme.
Il y a
une autre dame, je crois qu'elle est venue un jeudi. Elle avait des problèmes de dos qui étaient chroniques. Et elle a été guérie. Les gens étaient guéris des pieds, d'autres ont été guéris de la gorge. D'autres, on a eu toutes sortes de guérisons. Mais je sais une chose. Parfois, il y a des gens qui s'approchent. Et comme il manque un peu d'enseignement, ils
ne
s'approchent pas dans les conditions pour recevoir leur guérison.
Et
ce que j'aimerais, c'est vous enseigner ce soir à propos de ça, pour que vous puissiez être interpellé quand on fait des appels pour la guérison divine, même si vous voulez recevoir vous-même votre propre guérison tout seul en priant, vous pouvez. Ce que je veux, c'est éveiller votre foi. Parce que je ne veux pas que des gens s'approchent à des appels simplement disant bon bah le pasteur il a une parole là par rapport à tel type de maladie, c'est ce que j'ai, ok. Et c'est vrai que je ressens souvent des directions pour prier pour certains types de maladies. Et c'est là où nous voyons en général le plus de résultats, mais pas toujours. Mais ce que je veux, c'est que quand vous vous approchez, vous puissiez comprendre certains principes. Parce que c'est très important. Dans le Nouveau Testament, il faut simplement comprendre comment se positionner pour recevoir. Ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Dieu en Jésus-Christ a simplifié l'équation. Dans l'Ancien Testament, ils étaient obligés de prier, de jeûner, de pleurer, d'essayer de s'approcher de Dieu. Et c'était l'homme d'Israël, la femme d'Israël, pécheur, qui voulait s'approcher d'un Dieu qui est saint,
pour
être touché par lui. Et évidemment, cela demandait souvent d'être dans le jeûne et la prière. Ils n'avaient pas le nom de Jésus. L'œuvre de Jésus n'était pas faite pour eux.
Il n'était pas
au bénéfice d'un héritage. Alors regardez maintenant quelque chose. Je vais vous montrer qu'aujourd'hui, vous êtes au bénéfice d'un héritage au niveau de la guérison. Je veux éveiller votre foi. Parce que je veux que vous appreniez à marcher dans la guérison divine. Je veux que vous appreniez à voir le royaume de Dieu se manifester. C'est très important pour vous. Regardons la prophétie d'Ésaïe qui est très connu, Ésaïe 53. Je vais vous montrer un principe ici, qui est un principe spirituel, qui est extrêmement important. Ésaïe, ça a été le prophète qui a exercé son ministère le plus longtemps dans l'Ancien Testament. On estime qu'il a environ exercé son ministère pendant 60 ans.
C'était vraiment un homme de Dieu extraordinaire, Isaïe. On sait qu'il a été torturé, qu'il a été scié, c'est comme ça qu'on l'a assassiné. Et ce sont les Juifs qui ont fait ça, et c'est pour ça que Jésus disait que les Juifs avaient tué les prophètes que Dieu avait envoyés.
Isaïe,
c'était un puissant homme de Dieu qui restait très très longtemps sans dérailler, mais longtemps sur la piste, et il a très bien terminé dans le sens avec le Seigneur. Et Isaïe, il a vécu 700 ans environ avant que Jésus ne vienne. Cet homme a reçu des prophéties sur la croix de Christ comme absolument aucun autre prophète. Certains avaient reçu des petites révélations de ce qui allait se passer. C'est ce qu'on appelle les prophéties messianiques. On estime qu'il y en a environ 300 dans l'Ancien Testament. Ce sont des paroles prophétiques qui d'un seul coup sont des petits flashs sur ce qui allait se passer lorsque Jésus est venu, s'est incarné, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Mais quand on étudie les prophètes, on s'aperçoit que Isaïe, c'est celui qui a eu le plus de révélations sur la croix, avec le plus grand nombre de versets qui vont correspondre à ce que Jésus va réellement faire. Il dit au verset 4: certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs dont il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé de Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures, regardez bien ce verset, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.
Baravuga ku murongo wa kane ngo nukuri neza cyo ntimba yishize ko niyacu mibabaro yikoreye ariko tweho twamwumvire nk'uwakubiswe nk'uwacumiswe n'Imana akicurikirizwa n'akabonge yamara yacumitiwe ivyacu bicumuro yajanjaguruwe ivyacu bigabitanye igihano kitoronkesha amahoro cabaye kure ngo kandi urabe neza imishisha guyiwe niyo idukiza.
La Bible nous dit ce sont de nos douleurs
dont
il s'est chargé, nos souffrances qu'il a portées. La Bible parle de quoi ici? Il est clair que la Bible parle au moment même où Christ, ça fait partie d'un enseignement qui s'appelle notre identification avec
Christ,
alors qu'il était sur la croix en train de mourir, il y a eu un transfert spirituel. Rappelez-vous que Jésus était sans péché et la mort n'avait aucun pouvoir sur lui. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi spirituelle qui est très claire et qui dit que le péché, la mort pardon, a du pouvoir seulement s'il y a du péché. Jésus n'était pas pécheur. Il n'avait commis aucun péché. Et la mort donc n'avait pas un pouvoir sur lui. Et alors que la mort a pris Jésus, en fait ce n'est pas le diable qui a mis à mort Jésus. C'est d'ailleurs ce que je n'aime pas dans le film de la Passion. Parce que ça, on a l'impression que c'est le diable qui arrive à attraper Christ. Non, c'est Jésus qui a donné sa vie. Le diable ne pouvait pas prendre la vie de Christ parce qu'il n'avait pas le droit légal de lui prendre sa vie, parce que Jésus était parfaitement vivant spirituellement, absolument sans péché, et que la mort n'a aucun pouvoir sur quelqu'un qui est sans péché. Et Jésus d'ailleurs le dit dans Jean chapitre 10,
dans Jean chapitre 10,
Jésus,
il dit que j'ai le pouvoir de donner ma vie, de la reprendre.
J'ai
l'autorité légale, littéralement, de pouvoir donner ma vie et de la reprendre. Jésus a été à la croix parce qu'il a voulu aller à la croix, non pas parce que quelqu'un l'a forcé à aller à la croix. Il savait que c'était le plan du Père, parce que Jésus n'est pas mort comme un martyr, comme quelqu'un qui est mort pour une cause. Mais Jésus est mort comme un substitut, c'est-à-dire quelqu'un qui prend la place de quelqu'un d'autre.
C'est ça,
lorsque Jésus a été pendu à la croix, qu'il s'est donné, il y a eu une loi spirituelle en action, qui est ce qu'on appelle la loi de l'identification, qui en fait faisait que tout ce qu'il y avait comme conséquence du péché, ça a été transféré dans l'esprit de Christ. Je pourrais vous le montrer par l'écriture, mais je ne vais pas aller trop loin dans ce sujet. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que Jésus est devenu péché, non pas pécheur. Et il y a une différence entre devenir pécheur et péché. 2 Corinthiens 5:21 nous le dit. Et il l'a fait devenir péché. Non pas pécheur. Jésus n'a jamais été pécheur. Sur la croix, Jésus n'est pas devenu pécheur. Parce que s'il était devenu pécheur, ça aurait voulu dire qu'il a commis un péché. Et que la nature de la mort, la nature du péché serait entrée. Non, la Bible nous dit qu'il est devenu péché, c'est-à-dire qu'il y a eu un transfert de notre nature de péché pour que nous puissions recevoir la vie. Et au niveau de la maladie, c'est la même chose. La Bible nous dit, juste dans Isaïe 53, un peu plus loin, au verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Alors c'est une très mauvaise traduction. Et en fait, il est dit littéralement dans l'hébreu, il a plu, c'est-à-dire ce que Dieu pouvait agréer. Ce que Dieu pouvait accepter en vue de nous racheter, c'était littéralement de le faire malade. Et ça, c'est un verset qui est puissant, qui nous montre aussi une chose, que lorsque Jésus est mort à la croix, non seulement il devient péché, non pas pécheur, et il devient malade. Littéralement, la puissance de la maladie doit être transférée dans son esprit. Je pourrais vous montrer la même chose concernant la pauvreté. Donc c'est important que vous compreniez ce principe. Et je vais vous montrer comment dans l'écriture ce principe va ressortir. Regardons ensemble, toujours dans Isaïe 53, la dernière partie donc du verset 5 nous dit: c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Maintenant, vous allez garder donc un doigt donc sur Esaïe 53 et vous regardez 1 Pierre 2:24. Pierre va reprendre ce verset et il va écrire la chose suivante. Il va citer ce verset. Et il est dit, donc, verset 24, « Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été
guéris. »
Alors, dans Isaïe 53, Isaïe dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Pierre dit, par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Donc là, il y en a un qui prend le temps présent. Nous sommes guéris. Et l'autre, ton Pierre, reprend le même texte,
mais
il le met au passé. Alors pourquoi est-ce que Pierre, alors que comme Esaïe, il est inspiré par le Saint-Esprit, pourquoi est-ce qu'il se permet de prendre le même texte, mais de changer le temps du verbe?
Ben,
je vais vous dire pourquoi. Lorsqu'Esaïe prophétise, il dit par les meurtrissures, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Esaïe vient avant l'œuvre de Jésus. Il vient 700 ans avant l'œuvre de Jésus. L'esprit prophétique, l'esprit de la prophétie, avec ce qu'on appelle les paroles de sagesse, c'est-à-dire des révélations sur le futur, amène Esaïe à donner par le Saint-Esprit ce qu'il est en train de se passer à la croix du calvaire. Il est transporté prophétiquement, et c'est la puissance de l'esprit de prophétie dans ce cas-là, comme s'il assistait devant lui à la scène de la crucifixion.
Et
c'est comme s'il est devant Jésus prophétiquement, et il est là et il dit par ces meurtrissures nous sommes guéris. Vous savez, je vais vous dire une chose. Si vous lisez une des deux épîtres de Pierre, je ne sais plus si c'est la première ou la deuxième, la Bible nous dit que ces prophètes, recevant de telles révélations, se demandaient réellement, ils cherchaient, ils s'interrogeaient devant de telles prophéties parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre ça. Esaïe est là au milieu de tumulte. Israël n'allait pas du tout quand Esaïe était prophète. Il y avait vraiment une apostasie, un éloignement de Dieu au temps où Esaïe se trouvait. Et d'un seul coup, il reçoit ces révélations sur la croix du calvaire, comme s'il est devant quelque chose qui est en train de se produire, qui le nomme au présent. Pierre, lui, va écrire son épître, disons environ entre 15 et 20 ans après la croix. Donc Esaïe, lui, est transporté, comme je vous le disais, prophétiquement devant l'événement qui est en train de se passer. Pierre, lui, écrit en se retournant vers un événement qui s'est déjà produit. Et c'est pour ça qu'il ne dit pas par ces meurtrissures nous sommes guéris. Mais Pierre nous dit par ces meurtrissures nous avons été guéris. Et littéralement, le temps qu'il utilise dans ce verbe-là, c'est un temps spécial en grec qui montre qu'une action est terminée, qu'elle a eu lieu pendant un temps et qu'elle est terminée. Ça veut dire que Pierre nous révèle quoi ici? Quand on compare Isaïe 53 et Pierre, finalement on s'aperçoit d'une chose.
Hein.
On s'aperçoit que Esaïe prophétise sur le temps de la croix comme un événement qui se déroule devant lui. À ce moment-là, nous sommes guéris. Pierre arrive après la croix, il se retourne, il dit oui, c'est pas que nous sommes guéris parce que nous avons été guéris. C'est terminé, ça nous appartient. Ça fait partie du contrat aujourd'hui. Parce que Christ a contracté cette nouvelle alliance. Alors qu'il est ressuscité, ça nous appartient. C'est à nous. C'est dans notre contrat, une clause de notre contrat. Ça nous appartient. Et voilà ce que Pierre est en train de nous dire. Donc, ce que je veux que vous compreniez, c'est que la guérison divine n'est pas quelque chose qu'il faut supplier devant Dieu pour Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi. Comme si ça dépendait de Dieu. Mais c'est quelque chose qu'il vous a donné, il m'a donné à
Christ.
Il m'appartient.
Qui
vous appartient. Et que vous devez apprendre et que je dois apprendre à recevoir. C'est marqué dans mon contrat. Je dis dans le contrat, guérison assurée. Guérison assurée. Par contre, il dit, vous devez apprendre à savoir comment recevoir. Parce que la Bible nous montre une chose.
En
Jésus, nous avons tout. Tout nous appartient. La Bible, nous avons tout pleinement en lui. Nous avons encore du passé. Oh, dans Éphésiens, ça nous a été rappelé hier, nous avons été bénis de toute la bénédiction spirituelle. Nous avons été. Tout ça s'est passé à chaque fois, comme une œuvre qui est faite, qui est accomplie. Je vous dirai une chose. Est-ce que quand quelqu'un s'approche pour donner sa vie au Seigneur, est-ce que Jésus a besoin de remourir? Non. Vous avez remarqué ça? Je peux prendre chacun d'entre vous ici. Lorsque Steve a demandé pardon pour ses péchés, Jésus n'est pas descendu du ciel. Oh, je meurs pour toi,
Steve.
Quand j'ai demandé pardon, le Seigneur n'est pas descendu. Oh, je meurs pour toi, Olivier. Non. Il sera jugé pour ça. Non.
Oh, yeah.
Christ est mort à la croix.
Christ a fait comme ça là-bas.
Et depuis ce temps-là, grâce à cet événement unique, vous êtes d'accord que depuis qu'il est mort à la croix, il y a 2000 ans, depuis tous les siècles, jusqu'au moment où il reviendra établir son royaume, les gens qui demanderont pardon auront leurs péchés pardonnés. Mais quand est-ce qu'ils ont été pardonnés
leurs péchés?
À la croix.
Comment ça va?
Le jour où Christ est mort à la croix.
C'est Christ va faire comme ça va.
Quand est-ce qu'on en a bénéficié? Le jour où nous avons demandé pardon, que nous avons cru dans notre cœur, mais Jésus n'est pas mort je ne sais combien de centaines de millions de fois ou de milliards de fois depuis que les gens se sont donnés à lui. Et pour la guérison, c'est la même chose. Jésus est mort une fois
pour
que par ses meurtrissures nous soyons parfaitement guéris. Donc Jésus n'aura pas besoin de remourir une deuxième fois, une troisième fois, une xième fois pour te donner la guérison. Mais comme il est mort une fois pour les péchés, Christ est mort une fois pour que tu sois guéri. Comme nous avons le pardon des péchés qui est quelque chose qui est là, qui nous appartient,
et
bien la guérison c'est la même chose. Et nous devons entrer dans cette dimension. Nous devons comprendre que si ça a été pour le péché de cette façon-là, c'est strictement identique, absolument identique concernant la guérison divine. C'est pas la peine de pleurnicher, de jeûner, de faire tout ce que vous voulez pour être guéri, comme si Dieu allait dire, ah, finalement, oui, toi, je veux bien dire. Il est mort pour votre maladie. De la même façon qu'il a porté vos péchés. Il a porté votre maladie. Strictement identique. Alors pourquoi tu croirais pour le péché et tu ne croirais pas pour la maladie? Pourquoi cela? Pourquoi ferais-tu une différence? Alors que la Bible met les mêmes choses dans le contrat.
Pourquoi
est-ce que tu peux dire j'ai mon péché pardonné, tu me crois par la foi? Et alors tu ne croirais pas pour ta guérison? Ça fait partie strictement du même héritage. Ça fait partie du même contrat. C'est marqué dans une des clauses. On a tout simplement à entrer dans cette dimension.
Dans
le Nouveau Testament, c'est vraiment très simple. Franchement, les choses sont simples. Tu entres dans ce que Dieu a fait au travers du sacrifice de Jésus. C'est tout ce que tu as à faire.
Ce
n'est pas compliqué,
mais
il faut d'abord le savoir et apprendre à en bénéficier. Plus tu t'ouvres à l'œuvre de Christ, plus tu peux apprendre à bénéficier d'une façon simple. La guérison se reçoit. Tu as reçu le pardon de tes péchés. La guérison, c'est la même chose. Tu
ne
peux pas apprendre à la recevoir. Là, ce soir, notre temps est terminé. Je vous montrerai qu'il y a trois façons. Trois façons par lesquelles vous pouvez recevoir la guérison. Certains d'entre vous, on a prié pour vous plusieurs fois. Ce que je veux, c'est que vous appreniez à motiver votre foi. Parce que si vous n'avez pas le résultat aujourd'hui, c'est pas Dieu qu'il faut remettre en question. C'est vous-même
qui
allez apprendre à entrer dans ce que Jésus a réalisé pour vous. Plus vous apprenez à entrer là, plus les choses sont faciles, plus Dieu peut se manifester puissamment
en
vous. Et plus vous apprenez que finalement les choses avec le Seigneur, c'est simple. C'est très simple. Il a vraiment simplifier les choses pour que nous puissions entrer, bénéficier de ce que Jésus a fait, le remercier et voir en masse les résultats que Dieu veut que nous ayons. Concernant la guérison divine,
frères,
il faut que nous apprenions à entrer dans une dimension supérieure, parce que Dieu veut que son peuple marche dans la bonne santé divine. Et je vous vous invite vraiment à méditer ces quelques versets que nous avons vus ce soir. Ces versets, c'est la clé pour que vous puissiez vraiment entrer dans ce que Jésus a fait pour vous. Le Seigneur vous bénisse.
Nous espérons que ce message vous a plu et qu'il a été pour vous une véritable source de bénédiction. Ce message a été diffusé par le ministère enseigne-moi.com. Nous vous invitons à visiter notre site internet www.enseignemoi.com sur lequel vous pourrez écouter et commander des centaines de prédications. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.